La Haute Renaissance, 1500-1530. Les principaux foyers de la peinture de la Haute Renaissance en Italie restent Florence, qui va vers son déclin, Rome et Venise. C'est néanmoins à Florence que rayonnent trois grands maîtres de la peinture du XVIe siècle. Léonard de Vinci fut un encyclopédiste avant l'heure, car sa curiosité ne se limitait pas au seul domaine artistique. Peu de tableaux nous sont finalement parvenus de cet artiste qui a aussi laissé une théorie de la peinture. La scène, qui figure au monastère Sainte-Marie-des-Grâces à Milan, La Joconde, peint en 1507, illustration la plus réussie de sa technique du sfumato, la brume qui nimbe personnages et paysages. Il reste également de lui une Vierge à l'enfant et Jésus et Sainte-Anne.
Le saviez-vous? Mona Lisa, un portrait modèle. La Joconde, dite Mona Lisa, s'appelait Lisa Gherardini, née en 1479 à Florence. Issue d'une famille modeste, elle était mariée au fils d'un marchand de soie, Francesco di Bartolomeo del Giocondo. En 1503, celui-ci cherche un peintre pour réaliser le portrait de son épouse et contacte Léonard de Vinci. D'autres sources évoque un autoportrait de Léonard travesti, voire un portrait fictif, réalisé à partir de plusieurs modèles ayant inspiré le peintre.
Né près d'Arezzo, Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange, 1475-1564, travaille essentiellement à Florence ainsi qu'à Rome au service de la curie pontificale. Placé en apprentissage à 13 ans, il est invité 2 ans plus tard dans la maison de Laurent de Médicis. Après la chute des Médicis, il se réfugie à Rome auprès du pape Jules II, qui le charge de représenter la création sur le plafond de la chapelle Sixtine. Michel-Ange, qui s'estime plus sculpteur que peintre, hésite. Vaincu par l'obstination du pape, il passe 4 années pénibles sur les échafaudages et laisse 800 mètres carrés de fresques imposantes. 23 ans plus tard, le pape Clément VII lui demande une nouvelle fresque pour le mur de l'autel. Ce sera le grandiose jugement dernier. Libéré du sfumato de Léonard, il retrouve dans ses œuvres des contours nets et précis, mais il introduit avant tout une impression de tension et de mouvement.
N'oubliez pas, un art est né dans le plafond. La chapelle Sixtine doit son nom à celui du pape Sixte IV, de la famille des Della Rovere, pape de 1471 à 1484. La décoration des parois, confiée à une équipe de peintres tels que Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, comprend les tentures en trompe-l'œil, les histoires de Moïse et du Christ et les portraits des papes. Le 15 août 1483, Sixte IV consacra la nouvelle chapelle et la dédia à Notre-Dame de l'Assomption. Jules II della Rovere, pape de 1503 à 1513, neveu de Sixte IV, décida de modifier en partie la décoration. En 1508, il confia les travaux à Michel-Ange Buonarroti, qui exécuta la voûte et les lunettes en haut des murs. Les travaux furent terminés en octobre 1512, et Jules II inaugura la chapelle Sixtine par une messe solennelle le jour de la Toussaint. Les 9 scènes centrales représente des épisodes de la Genèse, de la création à la chute de l'homme, avec le déluge et la renaissance de l'humanité par la famille de Noé.
Raphaël naît le 6 avril 1483 à Urbino, alors que son père Giovanni Sanzio est peintre officiel de la cour. Influencé par le Pérugin, il peint d'abord à Florence toute une série de vierges et la belle jardinière, en associant à la beauté angélique des visages un grand art de la composition. Jules II l'appelle ensuite pour décorer les salles du Vatican, les stanze. Son œuvre prend une dimension héroïque. L'école d'Athènes met en scène un débat philosophique dans un cadre architectural majestueux, entre philosophes et savants grecs, parfois représentés sous les traits de contemporains, comme au centre de l'œuvre Platon levant le bras sous les traits de Léonard de Vinci. Raphaël, en se représentant également, cherche à montrer la Rome moderne comme l'équivalent de la Grèce antique. D'autres œuvres concourent à sa célébrité. La nymphe Galatée de la Villa Farnese, Saint Georges combattant le dragon. Il meurt en 1520. La Renaissance tardive, XVIe siècle. Vers 1520, un style apparaît dont la tendance est d'accentuer la grâce, les courbes, la déformation des corps et même les couleurs. Le terme de maniérisme provient de l'italien maniera, qui signifie style. Parmi les autres caractéristiques de ce courant, la recherche du mouvement, la perte de clarté et de cohérence de l'image, des contrastes de tons et une symbolique complexe, alchimie, art du blason, langage des fleurs. Ces tendances, illustrées au XVIe siècle par Paolo Veronese et le Tintoret, persistent jusqu'aux environs de 1590, quand se mettent en place les structures du baroque. En Italie, la maturité de la peinture de la Renaissance est illustrée par quelques grands noms. Giorgione, 1477-1510, élève de Bellini et maître du Titien, a été célébré comme le symbole du renouveau qui éclate pendant le Cinquecento. Peintre aristocratique travaillant pour un cercle restreint de beaux esprits, il injecte dans son œuvre les plus graves motifs de la spiritualité humaniste tout en y projetant sa passion pour la réalité naturaliste. Ses principales œuvres, La Tempête, Les Trois Philosophes, La Vénus endormie. Tiziano Vecelli, dit le Titien, est né dans le village de Cadore, à côté de Venise, sur la route commerciale qui mène à l'Allemagne. Envoyé par son père suivre une formation de peintre chez Bellini, à Venise, il collabore bientôt avec Giorgione et le succès suit rapidement. L'aristocratie vénitienne recherche ses portraits. Son atelier personnel est créé vers 1514. Vers 1516, il est nommé peintre officiel de la Sérénissime République, titre qu'il cherchera à conserver avec âpreté jusqu'à sa mort, qui lui donne droit à une bourse annuelle et une exemption d'impôts. Giuseppe Arcimboldo, 1527-1593, aristocrate milanais formé par son père, commence sa carrière comme dessinateur de cartons, de tapisseries et de vitraux, notamment ceux de la cathédrale de Milan, avant de mettre ses talents au service des princes de Habsbourg, à Vienne. Ses portraits sont des œuvres de la métamorphose. Il élabore un genre de peinture fantastique à partir d'assemblages d'animaux, de fleurs, de fruits ou d'objets étudiés avec soin, afin que leur assemblage suggère des formes humaines en rapport avec des sujets, le printemps par exemple, ou des caractères. Ces images multiples d'échelles différentes perturbe volontairement l'unité spatiale. La déformation maniériste atteint son apogée avec Francesco Mazzola, 1503-1540, dit le Parmesan, élève de Corrège. Les figures ou objets qu'il projette dans l'espace témoignent de son sens plastique. La Vierge au long cou montre comment des détails qui semblent secondaires donnent en réalité tout son sens à l'œuvre. Né en 1573 à Caravaggio, Michelangelo Merisi, dit le Caravage, vient à Rome vers l'âge de 15 ans, luttant contre la misère et une santé précaire. Moins de 10 ans plus tard, on parle de lui comme du celebrissimo pittore, protégé par des mécènes illustres et puissants. Mais son tempérament colérique et violent lui vaut aussi des démêlés avec la police. Querelles, rixes, affaires de mœurs, fuite vers Naples, Malte, la Sicile. Il meurt de la malaria en 1610 sur le chemin du retour à Rome. Le fond obscur de ces tableaux met en relief des figures dont la suavité est parfois source d'ambiguïté. Son art se distingue par le traitement contrasté de la lumière. Les sujets sont traités sur le mode d'un réalisme objectif, associé à une dimension méditative. Le naturalisme avec lequel il traite des scènes religieuses suscite l'indignation du clergé. Citons dans ses œuvres le repos de la fuite en Égypte, la corbeille de fruits, Bacchus et David et Goliath. En Espagne, l'artiste le plus remarquable du maniérisme espagnol est un peintre d'origine grecque, Domenikos Theotokopoulos, dit le Greco, 1541-1614. Précurseur de Velázquez, le Greco aime l'inachevé, ce qui le pousse, après avoir réalisé un tableau, à le retoucher en dessinant par taches avec les couleurs. Toute son œuvre est marquée du mépris si caractéristique de l'art maniériste pour les éléments corporels, terrestres et spatiaux. Que ses peintures aient pour décor une église ou un paysage, le Greco néglige la profondeur de champ, préférant suggérer un parcours vertical de la terre vers le ciel. Ici-bas, rien n'est stable. Les collines semblent des mers houleuses et les rochers basculent comme des plaques tectoniques. Le célèbre enterrement du comte d'Orgas raconte ce passage du bas vers le haut. En France, l'art de la Renaissance en France est représenté par l'école de Fontainebleau, une interprétation française mesurée du maniérisme. L'appellation donnée à ce mouvement artistique date du XIXe siècle par référence aux estampes réalisées dans les années 1540 sous l'influence de deux maîtres italiens œuvrant au château de Fontainebleau, Rosso et le Primatice. Une renaissance décorative, sous Henri IV, connue sous le nom de la deuxième école de Fontainebleau, voit le jour par la suite. Les travaux de construction du palais de Fontainebleau, commencés en 1528, durèrent 200 ans. Axés sur la décoration intérieure dans une combinaison de sculptures, de fer forgé, de peintures, de stucs et de boiseries, la galerie François Ier, qui règne de 1533 à 1540, est l'archétype du modèle de Fontainebleau. Dans les Flandres et en Allemagne. Anvers est le centre le plus important de production de l'école flamande. L'humanisme, apparu au XVe siècle, exerce alors son influence. Pieter Bruegel, dit l'ancien, domine la peinture flamande du XVIe siècle. Ses deux fils sont Pieter Bruegel le jeune et Jan Bruegel dit Bruegel velours. Bruegel l'ancien peint les mœurs paysannes, les noces, les moissons et la vie quotidienne. Il peint également les principales scènes des Saintes Écritures, notamment le dénombrement de Bethléem. On lui doit également le triomphe de la mort et la chute des anges rebelles. Albrecht Dürer, 1471-1528, est à la fois peintre et graveur. Au cours d'un séjour à Venise, il est fasciné par la Renaissance en Italie du Nord et étudie cet art nouveau. Davantage dessinateur que peintre, il allie le réalisme à la volonté de représenter la vérité. Ses principales œuvres sont l'Apocalypse, le Chevalier, la Mort et le Diable. Luca Cranach, 1497-1543, peint essentiellement à la cour de Saxe et accorde dans son œuvre une grande place aux nus, puisqu'il semble avoir voulu créer un nouveau canon de beauté, d'esthétisme du corps dénudé, se différenciant du modèle italien. Il est toutefois plus célèbre pour ses séries de portraits. Hans Holbein, 1497-1559, est un grand voyageur. Il effectue plusieurs séjours en France, en Italie, en Angleterre. C'est d'ailleurs à la cour du roi d'Angleterre Henri VIII qu'il devient l'un des maîtres du portrait et de la gravure sur bois. On lui doit un Henri VIII et un Érasme. La peinture baroque, XVIIe siècle. L'art baroque s'épanouit d'abord en Italie au XVIIe siècle. Il puise ses sources à la fois dans l'Antiquité et la Renaissance. C'est avant tout un art de somptuosité, d'invention, d'imagination. Étymologiquement, le mot désignerait une perle de forme irrégulière et, par extension, un objet bizarre. L'art baroque naît avec la contre-réforme et se met spontanément au service de l'Église. Il va alors développer la brisure, la courbure, la tension et le nœud. En France, ce courant est représenté au XVIIe siècle par Nicolas Poussin, Claude Gelée, dit le Lorrain, Georges de la Tour. La majorité des peintres français du début du XVIIe siècle ont suivi leur formation à Rome au contact des différentes écoles italiennes. Certains ont ainsi introduit en France le caravagisme, dont on trouve l'écho dans les clairs-obscurs de la Tour. D'autres, comme les frères Lenain, où Philippe de Champaigne ont entretenu des liens avec les peintres flamands. Les influences sont donc diverses, les interprétations variées et les frontières floues. L'œuvre de Nicolas Poussin s'inscrit dans la continuité de l'art de l'Antiquité et de celui de Raphaël. Sa palette est celle du néoclassicisme baroque. Les tableaux sont le plus souvent à sujet antique et caractérisés par l'équilibre de la construction. Ils éclairent le paysage d'une façon historique, religieuse, voire philosophique. En 1640, Louis XIII et Richelieu lui demandent de superviser les travaux du Louvre. Ses principales œuvres sont Orphée et Eurydice, Les Bergers d'Arcadie, Les Quatre Saisons, L'Enlèvement des Sabines. En Hollande. La peinture néerlandaise du XVIIe s'attache à révéler l'homme et à présenter des types sociaux. Fortement influencée par le calvinisme, elle se veut proche du réel et multiplie l'exactitude des détails. L'inspiration repose sur des expériences du vécu quotidien, le portrait, le paysage. Plusieurs noms sont emblématiques de cette période. Installé à Amsterdam dès 1631, Rembrandt acquiert rapidement une grande notoriété et exécute la commande de nombreux portraits. Son activité de portraitiste le consacre en 1632 avec la célèbre leçon d'anatomie du professeur Nicolas Tulp. Par son mystère des transparences ambrées, il est aussi le peintre du clair-obscur, diluant les formes dans la pénombre. Ses œuvres principales, Ronde de nuit, Le syndicat des drapiers, Titus lisant, Les pèlerins d'Emmaüs. Pierre-Paul Rubens, 1577-1640, fut un artiste complet. Peintre, architecte, illustrateur, collectionneur à la façon des hommes de la Renaissance. Son voyage à Rome lui fit connaître Raphaël et Caravage qui l'influencèrent profondément. Il est l'auteur de portraits sensuels de femmes, mais aussi d'une peinture d'apparat et de tableaux à la manière italienne sur des sujets mythologiques et allégoriques. La descente de Croix, la mort de Sénèque, les quatre philosophes, Samson et Dalila. Peintre des intérieurs bourgeois, Jean Vermeer de Delft, dit Vermeer, 1632-1675, aime mettre en scène les actions de la vie quotidienne. La dentelière, la laitière. Ces sujets sont traités avec une grande vérité car il s'est livré à des recherches poussées pour rendre couleur, forme, apparence. En témoignent ses autres œuvres comme l'astronome, le géographe, la lettre d'amour ou vue de Delft. En Espagne, Diego Rodríguez da Silva y Velázquez, en français Diego Velázquez, naît à Séville en 1599. Il accorde dans sa première manière plus d'importance au dessin qu'à la peinture. La première période madrilène, de 1623 à 1629, porte l'art du portrait à ses sommets. Portrait en pied du roi, portrait de l'infant. La seconde, de 1631 à 1648, se caractérise par trois thèmes. Les chasseurs, les cavaliers, les bouffons. Toutefois, l'art du portrait de cour persiste avec Philippe IV, Don Carlos et les Ménines.